au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour Jean-Dominique Giuliani.
Bonjour.
Vous présidez la Fondation Robert Schuman, un centre français de recherche sur l'Europe, le centre français de recherche sur l'Europe en fait. Et vous venez d'écrire un livre sur la présidence française de l'Union européenne, présidence française qui débute demain puisque nous enregistrons cette émission le 30 juin 2008, une présidence qui va durer 6 mois. Et votre livre s'intitule « Un Européen très pressé ». Et ce livre est paru aux éditions du Moment. Alors c'est un Européen très pressé et qui pourtant se retrouve face à de grandes difficultés, notamment le non irlandais, qui ne va pas falloir prendre du temps au contraire pour mener cette présidence.
Oui, l'Européen très pressé, c'est Nicolas Sarkozy, président de la République française, pendant 6 mois va occuper la fonction de président du Conseil de l'Union européenne. Car il faut bien expliquer ce qu'est aussi la présidence du Conseil. Ce n'est que présider l'une des 3 institutions de l'Union européenne, celle qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement, s'agissant du Conseil européen, ou bien des ministres, le Conseil, ce qu'on appelle le Conseil, ou bien tous les comités qui préparent les travaux du Conseil. Donc la France, en président, doit animer, préparer les réunions, les conduire de telle sorte qu'on essaie d'aboutir à des décisions communes, ce qui n'est jamais facile. Alors, pendant ce temps-là, le Parlement européen reste le même.
Et puis la Commission.
Dans sa composition, et la Commission aussi, avec leur rôle institutionnel. C'est donc un dialogue à 3, mais il est vrai que l'Union européenne étant une union d'États, et aussi une union de peuples, mais une union d'États souverains, bien sûr, le Conseil est important puisqu'il rassemble les représentants des États.
Donc, ce système à double exécutif, enfin à double tête, en fait, qui n'est pas évident à gérer. Entre la Commission et le Conseil.
Ça n'a rien à voir avec des institutions traditionnelles telles qu'on peut les connaître dans un pays normalement démocratique, voire en France, certainement pas en France. En fait, il y a une commission qui est une sorte d'exécutif européen, mais un peu plus que cela, car elle est chargée de veiller à l'application des traités et à l'intérêt général européen, avec d'ailleurs la Cour de justice, la Cour des comptes européenne et toute une série d'autres institutions. Et puis, il y a 2 organes législatifs qui sont les représentants des États, le Conseil et le Parlement européen. Dans le traité de Lisbonne, par exemple, le Parlement européen devient un législateur de plein exercice, ce qu'il n'est pas encore. Alors donc, évidemment, prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne, c'est donc occuper une fonction éminente, à tour de rôle, et c'est à la fois gérer les dossiers en cours, assurer le bon fonctionnement de l'Union européenne, on y reviendra, j'imagine, des dossiers importants sont sur la table des institutions européennes, mais c'est aussi faire face à tous les aléas politiques, politique à l'intérieur de l'Europe, le non-irlandais par exemple, et à l'extérieur, les crises internationales, les relations avec les pays tiers.
En parlant peut-être des chantiers qu'attendent Nicolas Sarkozy, quels sont les grands chantiers qu'il voudrait mettre en œuvre et quels sont ceux qui s'imposent à lui? Ceux qui s'imposent à lui sont le côté institutionnel avec un élargissement possible et puis le non-irlandais. Et au niveau de la politique, il y a la défense, l'immigration. Qu'est-ce que vous croyez que la France va pouvoir faire en 6 mois? C'est court, en fait, 6 mois.
Je les présenterai autrement. Il y a des dossiers qui sont déjà sur la table des institutions européennes. Oui. Par exemple, ces propositions très ambitieuses de la Commission européenne en matière de protection de l'environnement, réduction des gaz à effet de serre de 20% d'ici 2020, ce qui est un objectif très ambitieux.
Mais ça, c'est déjà acté, par exemple?
Non, pas du tout. C'est sur la table du Conseil avant de passer au Parlement. Donc la Commission a fait une proposition. Deuxième aspect, elle prévoit notamment que la part des énergies renouvelables dans notre consommation d'énergie totale devrait passer à 20% aussi d'ici 2020. C'est donc un paquet législatif très important qui est envoyé sur la table du Conseil. Nicolas Sarkozy et le gouvernement français estiment que cela figure au titre de leur priorité que d'avoir, avant la fin de l'année, un accord politique entre les États membres sur les propositions de la Commission, éventuellement amendées. Ensuite, ça passera au Parlement européen, qui devra à son tour délibérer. Il y aura un dialogue entre le Conseil et le Parlement qui décident tous les deux in fine.
Donc ensuite, il y a un temps d'application qui peut être long pour qu'il y ait application par les États,
oui,
les États membres.
Oui, absolument, puisque l'administration européenne n'applique pas elle-même. Elle conçoit les lois et les règlements. Il y a un deuxième sujet qui est largement sur la table du Conseil qui concerne l'immigration. On a vu le Parlement européen voter récemment une directive sur le droit d'asile et le retour des immigrés.
Mmh.
Oui. Nicolas Sarkozy en a fait une priorité car il souhaiterait une harmonisation du droit d'asile, du fait que la zone de libre circulation dite de Schengen au sein de l'Union européenne s'est élargie à 22 États membres, plus même deux États membres qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Il y a donc comme ça toute une série de questions. Il y a un rendez-vous qui est prévu à l'automne et là, la présidence française a pesé de tout son poids avant même d'exercer sa fonction pour que ce soit un peu anticipé. Il s'agit de procéder à un bilan de la politique agricole commune, si controversée, au moment où les cours des matières premières alimentaires s'envolent et où on assiste malheureusement à un certain nombre de crises alimentaires dans le monde. Voir si donc la politique européenne de l'agriculture, qui doit être redéfinie en 2013 pour 7 ans, notamment avec les moyens budgétaires qui vont avec, doit être ou non corrigée. Et puis, il y a les apports spécifiques que la France et Nicolas Sarkozy souhaitent faire et proposer à leurs partenaires. Le premier, c'est sur la politique de la défense commune. Là, la France estime, à juste titre, je crois, être en position de faire bouger les lignes. C'est le seul État de l'Union européenne qui soit sur le continent, qui participe à toutes les politiques européennes, suivez mon regard du côté des Britanniques, et qui sont en même temps une puissance nucléaire avec une armée forte et qui siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est donc un peu leader en la matière. Bien sûr, les Britanniques le sont aussi, mais on sait, on connaît leur réticence à l'égard de toute défense commune. Donc la France, à juste titre, estime qu'il lui appartient d'essayer de proposer des mesures concrètes pour avoir un embryon d'armée européenne, dépenser malheureusement un peu plus d'argent pour la défense pour que cela conforte et crédibilise notre politique étrangère et aussi parce que l'Union européenne est devenue le premier ensemble du monde par la richesse, 21% de la richesse mondiale contre 19% pour les États-Unis ou 8% pour la Chine et donc elle ne peut pas faire l'économie d'une défense crédible qui nécessite une mutualisation des moyens, satellites, transports, formation des militaires, mais aussi quelques capacités d'action purement européennes. On voit au Darfour aujourd'hui combien nous avons besoin de défendre nos intérêts ou même nos valeurs, les droits de l'homme, à l'extérieur du territoire européen pour mieux protéger l'Europe. Ce qui est paradoxal, c'est que par exemple au Darfour, au Tchad aujourd'hui, le commandant de l'EUFOR, la force européenne qui protège 800 000 civils, des guerres civiles locales. C'est un Irlandais.
Est-ce que Nicolas Sarkozy va avoir la présidence, parce qu'il ne sera pas tout seul évidemment à gérer ce dossier, est-ce qu'ils auront le temps de gérer cette crise pétrolière qui est là délibérément sur la table européenne par le fait des citoyens, de beaucoup de métiers qui ont décidé de manifester partout en Europe, à différents endroits. Et Nicolas Sarkozy avait parlé d'arriver à prendre une décision commune au niveau de l'Europe. Est-ce que vous croyez que ce sera possible?
Ce sera l'un de ses efforts et c'est peut-être le dernier point que je voulais développer. La conception qu'il a de l'Europe est une conception très exigeante. C'est pour ça que je dis que c'est un Européen convaincu, je n'ai aucun doute là-dessus, mais un Européen pressé. Dans la mesure où nous avons trop tardé à passer en quelque sorte la porte de l'union politique. Longtemps, l'Union européenne n'est restée qu'une union économique qui a plutôt réussi. 15 millions d'emplois créés depuis que l'euro est en vigueur. C'est deux fois plus que dans la période précédente. Mais sur le plan politique, c'est-à-dire essayer d'avoir au niveau européen un gouvernement ou l'équivalent qui puisse réagir à des demandes précises des citoyens européens, nous n'en sommes encore pas là parce que les États membres sont un peu jaloux de leurs prérogatives et n'ont pas voulu donner à la Commission européenne, aux institutions européennes, ni le budget, ni les compétences pour le faire. Et donc, nous agissons toujours par traités qui doivent être ratifiés par tout le monde, on le voit bien aujourd'hui, et donc forcément un peu à minima. L'idée de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il faut que l'Europe passe la porte du politique et puisse répondre aux demandes précises des citoyens, celles concernant le pouvoir d'achat, la hausse des prix de l'énergie ou des produits alimentaires en est une. Je pense que son hyperactivisme et sa force de conviction devraient faire bouger un peu ses partenaires. Il est vrai que tout le monde n'est pas d'accord pour toucher à la fiscalité. Il est vrai que l'Union européenne a pris l'habitude d'envisager l'avenir de l'Union européenne de manière d'ailleurs assez habile dans le long terme plutôt que dans le court terme. Il faut maintenant passer à une phase plus politique. En ce sens, Nicolas Sarkozy est très européen, plus européen que ses prédécesseurs, car pour lui, l'action publique, c'est à Paris autant qu'à Bruxelles. Et on l'a vu d'ailleurs quand il a pris ses fonctions et s'est rendu à la Commission européenne. C'était la première fois qu'un président français y allait. Il est allé au Parlement européen. Il a reçu la semaine dernière les chefs des groupes du Parlement européen ici. Il joue donc tout à fait le jeu européen, mais en contrepartie, il attend que l'Europe réponde. Or, elle n'est pas équipée, elle n'a pas l'habitude de le faire, de répondre à des crises immédiates.
C'est-à-dire ? Ils n'ont pas l'habitude de le faire ? Comment ça ?
Ils n'ont pas l'habitude de le faire, c'est-à-dire qu'on demande généralement à la Commission européenne de prévoir la consommation de pétrole à 20 ans, à 50 ans. Donc, naturellement, elle répond, bah, écoutez, il faut en consommer moins. Donc, si le prix augmente, c'est très bien. Mais les routiers, les pêcheurs qui sont dans des situations parfois dramatiques, les pêcheurs me paraissent en tout cas la pêche industrielle largement condamnée en Europe, donc on ne peut pas les laisser sans les assister, sans les aider à se reconvertir. Or ça...
Au moins en partie, au moins à court terme.
Pour l'instant, les institutions européennes disent ça c'est du ressort des États membres, nous n'avons aucune raison d'intervenir, ce n'est pas possible, bien sûr, de tenir cette position plus longtemps. Voilà un peu ce qui oppose le gouvernement français aux institutions européennes. Et je crois qu'il est dans le vrai.
Comment est-ce que la présidence de Nicolas Sarkozy est reçue par les autres États ? On se souvient de propos un peu tonitruants lors de sa campagne électorale, notamment sur la Banque Centrale Européenne, qui ont parfois été mal reçus. De la même manière, son discours sur la TVA européenne sur le pétrole n'a pas exactement été très très bien reçu non plus à Bruxelles, notamment par la BCE et Jean-Claude Trichet. Est-ce qu'il n'y a pas à avoir conflit ?
Il est pour la force du politique dans tous les domaines. Alors parfois il a raison, parfois un peu moins. Il s'en est pris dans le passé à Jean-Claude Trichet, je crois qu'aujourd'hui on n'entend plus beaucoup de critiques. Et c'est pas seulement à cause de la présidence de l'Union européenne, c'est aussi parce que le bouclier de l'euro nous a permis d'amortir la hausse du prix du pétrole au moins de moitié. Sans l'euro, le prix du super aujourd'hui aurait dépassé les 2 euros. Et donc, nous en profitons aussi. Ça peut handicaper certaines de nos exportations vers les pays tiers, un tiers seulement de nos exportations d'ailleurs. Mais globalement, cela nous protège plutôt. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement européen et que les États membres ne partagent pas tous les mêmes conceptions monétaire, économique, fiscale, et bien sûr ne veulent pas donner d'argent au budget européen qui représente moins de 1% de la richesse européenne. Imaginez les États-Unis avec un budget qui ne soit moins de 1% à Washington. Donc il n'y aura pas d'armée américaine, par exemple. Et donc il faut, à côté de la Banque Centrale Européenne, qui je crois fait bien son travail, il faut aussi une volonté politique qui s'exprime par les chefs d'État et de gouvernement. Mais vous savez, le malheur et la richesse de l'Europe, c'est la même chose, c'est la diversité des conceptions, la richesse des modèles. Chacun est attaché à son modèle social français, modèle éducatif britannique, modèle danois libéral, modèle industriel allemand de participation avec les ouvriers. Et l'Europe n'a pas pour vocation à briser les traditions nationales. Donc c'est un chemin de crête étroit, ça demande beaucoup de temps. Nous n'avons pas de gouvernement, notamment en matière économique, capable de dire voilà l'objectif de change que nous nous fixons par rapport au dollar ou de traiter directement avec les Américains ou avec les Chinois, cela nous manque. Mais ce n'est pas à M. Trichet qu'il faut s'en prendre, c'est plutôt aux gouvernements nationaux.
Jean-Dominique Giuliani, nous marquons une toute petite pause.
Dans sa médiathèque, Canal Académie vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique? Quels sont ses combats? Quelles sont ses fiertés, ses projets? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Académie.
Jean-Dominique Giuliani, ce qui importe quand un pays prend ainsi la présidence de l'Union européenne, c'est de savoir dans quel état politique sont ses partenaires. Est-ce que là, la configuration, vous la trouvez idéale entre une Angela Merkel, un Nicolas Sarkozy et un Gordon Brown? Comment vous voyez ce trio?
Écoutez, j'essaie d'expliquer, après une enquête fouillée dans cet ouvrage, que chaque fois qu'il y a un nouvel acteur, un nouveau chancelier, nouveau président en France, il y a un moment un peu de trouble, puisque le dialogue, l'amitié, l'alliance franco-allemande est si forte qu'elle est devenue très rituelle, avec des rencontres très fréquentes, régulières, des conseils des ministres franco-allemands, et que
c'est
généralement
un peu lourd.
La France et l'Allemagne se mettent d'accord avant d'aller à la table du Conseil européen. Ce n'est pas lourd du tout, mais quand on arrive et qu'on ne connaît pas, on essaie d'aller voir un petit peu du côté de Londres, M. Schröder l'a fait en son temps, si on ne peut pas rééquilibrer le rapport de force entre la France et l'Allemagne. Et en réalité, au bout de 8-9 mois, les choses rentrent dans l'ordre. Les intérêts de la France et les intérêts de l'Allemagne sont les mêmes au regard des politiques européennes.
Et c'est bien le couple franco-allemand qui a démarré l'Europe.
Oui, et il n'est pas possible d'avoir une majorité au sein de la table du Conseil des ministres avec l'Allemagne d'un côté et la France de l'autre. Ça ne marche pas. On l'a vu en 2000 au sommet de Nice. La France et l'Allemagne ont perdu leur deuxième commissaire, ont perdu des députés européens. Tout ça parce que l'Europe est reprise par ces vieux démons de la division dont elle est une spécialiste séculaire. Donc je crois que nos deux dirigeants, le président Sarkozy et la chancelière Angela Merkel, sont parfaitement conscients de cela. Même si leurs origines sociales, culturelles, historiques, personnelles sont très différentes et que tout semble les opposer, ils ont trouvé un modus vivendi et ils ont décidé, je cite les phrases de leur dialogue, en racontant un peu les coulisses, ils ont décidé, quelles que soient leurs différences, de se mettre d'accord.
Quels sont les thèmes qui les rassemblent et lesquels les opposent ?
Écoutez, je crois qu'on ne peut pas raisonner comme ça. Entre la France et l'Allemagne, comme entre deux nations souveraines, les intérêts industriels, économiques, en matière de droit civil, de droit de la famille, etc., s'opposent souvent. On a des problèmes entre des couples divorcés franco-allemands, on ne sait pas quel est le régime applicable aux enfants, on a des problèmes industriels, on veut nos champions, etc. Donc il y a des tas de raisons de s'opposer, et donc les administrations s'opposent, les entreprises sont en concurrence, mais lorsque l'essentiel est en jeu, cela arrive au niveau des chefs d'État et de gouvernement, et leur grandeur, leur noblesse fait que ils essaient d'incarner l'intérêt général de leur pays et l'intérêt commun européen, et généralement ils trouvent un accord. On va ensuite à la table du Conseil des ministres européens, et franchement, j'entends et je lis beaucoup de choses sur la faiblesse du couple franco-allemand, les divisions. Lorsqu'ils sont d'accord, généralement la décision européenne est fort proche de leur entente. Il y a eu peut-être un peu de différence sur la méthode, les acteurs ne se connaissaient pas, je crois que c'est terminé. Et aujourd'hui, pour la présidence française, Mme Merkel a fait des déclarations tout à fait fortes, disant qu'elle était aux côtés de la France, comme la France était à ses côtés lorsqu'elle assumait la présidence en 2007. Quant au Royaume-Uni, je crois que Nicolas Sarkozy a eu l'intelligence d'aller rendre visite à nos amis et voisins britanniques pour essayer d'éviter qu'ils ne se marginalisent en Europe. Ils ont des débats de politique intérieure encore, qui ne correspondent pas à la réalité des intérêts du Royaume-Uni. On le voit bien avec M. Gordon Brown, qui poursuit la ratification du traité de Lisbonne en expliquant que la place de l'Angleterre est en Europe. Alors, ils ont une tradition différente, ils ont une vision sur le monde différente de la nôtre. une vision sociale et économique très insulaire, longtemps tournée vers les États-Unis. Je crois que les intérêts des Britanniques sont aussi en Europe, et l'intelligence de la politique française actuelle, c'est d'aller les tirer par la manche pour ne pas les laisser sur le bord du chemin. D'autant plus qu'en matière de défense, ils ont une longue expérience, un système de défense tout à fait remarquable dont l'Europe a besoin aussi.
Est-ce que le risque de la présidence française n'est pas de se laisser happer par la question de la ratification du traité de Lisbonne, d'autant que c'est Nicolas Sarkozy qui a un peu initié ce traité dit simplifié au départ, au détriment des dossiers dont nous parlions au tout début de cette émission ?
Non, je ne le crois pas, parce que le travail se fait tous les jours. Et vous savez, il y a plus de 200 comités, plus de 9 conseils des ministres, plus d'une centaine de réunions de toute nature qui viennent s'ajouter à cela. Donc le travail s'effectue en Europe et il faut le conduire, le mener à bien. C'est un énorme travail préparé depuis des mois, préparé avec les présidents précédents. Et puis, vous savez que c'est la règle maintenant, on travaille à 3 présidences. Donc nous travaillons avec les Tchèques et les Suédois, qui vont nous succéder à la présidence du Conseil pour avoir un programme de travail sur 18 mois.
C'est ça, parce que 6 mois, c'est court en fait.
Oui, c'est court, mais...
Vous savez, pas trop court. Une présidence d'un an, ça serait pas un peu
mieux. Cela a été instauré pour qu'un pays se mette aux couleurs de l'Europe pendant 6 mois et s'abstienne de ces simples visions nationales et de la défense stricte de ces simples intérêts nationaux pour essayer de s'inspirer de l'intérêt général européen et de le faire progresser. Et ça marche très bien avec les petits comme les grands, ceux du Nord comme du Sud. Une présidence, c'est important. Actuellement, nous vivons les dernières heures de la présidence slovène. Nouvel État membre, nouveau membre de l'euro, 2 millions d'habitants. Les Slovènes ont investi considérablement dans leur présidence, dégagé des crédits importants pour se mettre à l'heure de l'Europe et essayer de se mettre à la place de l'intérêt européen, de faire progresser les dossiers. Donc c'est ça l'intérêt de la présidence tournante. Elle n'a pas que des inconvénients, mais une fois encore, la gouvernance de l'Europe, ce n'est pas quelqu'un qui décide en haut. Vous savez, il y a très peu de pays où ça marche comme ça. La France est celui-là. Ce n'est pas le système commun de la démocratie. Il y a des démocraties beaucoup plus parlementaires, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Et c'est d'ailleurs le modèle le plus commun, et puis très décentralisé. Donc, nous aurions tort de penser que Nicolas Sarkozy, même si ça nous fait très plaisir, va décider pour les autres.
Merci beaucoup Jean-Dominique Giuliani. Je rappelle le titre de votre livre, Un Européen très pressé, aux éditions du Moment. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.